Parce que sinon...
RFI et France 24 présentent... Radio Foot International, le café des sports.
Olivier Prou.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la version Café des Sports de Radio Foot International, comme chaque vendredi. Ravi de vous retrouver, pour ne surtout pas niaiser, mais bien causer. D'une Ligue des Nations dont tout le monde se moque, ou presque. Enfin, l'équipe de France, c'est sûr, vu le niveau de jeu affiché et le manque d'envie caractérisé. Un point hier face à Israël, un nul 0-0 pour une qualification en quart qu'il est tout autant nul. Ces bleus ennuient, consternent et voudraient nous persuader de l'inverse. L'Italie dimanche pourrait s'en régaler, n'est-ce pas Xavier Barret ?
Moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais bonjour quand même, cher
C'est
Olivier.
Pour ça que c'est intéressant que vous soyez là. Je me doute bien que vous n'êtes pas d'accord. Je vous sens totalement happé par cette compétition. En Afrique, la bataille pour les dernières places qualificatives à la CAN 2025 fait rage. Le carnet de balles se remplit à vitesse grand V. De 8 qualifiés à l'aube de ces 5e et 6e journées, nous voilà à 15 sur 24. Pas mal, mais pas vraiment de surprise au final. Nigeria et Tunisie ont validé hier leur ticket. La Guinée en rêve encore. C'est en RDC déjà qualifié que le Sili de Michel Dussuyer va devoir aller la chercher. Vous y croyez, vous, le Sénégalais Yoro Mangara ? Bonsoir.
Oui, j'y crois. Et parce que grâce à vous, j'ai déjà interrogé Dussuyer, il y croit aussi.
L'ami Michel, vous êtes satisfait au passage du petit 1-0 de vos petits protégés hier face au Burkina Faso ?
Ça nous permet d'être seul leader. Voilà. Il n'y a que la victoire qui compte dans ces matchs au couteau.
Et puisque nous sommes sur la radio du monde, après l'Europe, l'Afrique, c'est en Amérique du Sud que nous vous emmènerons en fin d'émission, juste avant vos cartons et les nôtres. Juste avant donc pour parler, là-bas les qualifs pour la Coupe du Monde 2026 battent leur plein. Bon, façon école des fans, hein. Comme d'habitude, tout le monde joue et la plupart gagnent. Enfin, 6 voire 7 sur 10 vont se qualifier. Non, ce qui est agaçant, c'est l'attitude des grands, ou supposée telle, cette question. Quand Vinicius et Messi se comportent comme des mauvais garçons, ça a été le cas la nuit dernière, insultes aux arbitres, à la clé, quelle image renvoie-t-il à la jeune génération ? Bref, comment fait-on avec ça pour trouver des éducateurs motivés ? Hein, Rémy Ngono, comment on fait ?
On lui donne un ballon d'or.
Mais allez!
Qui à Messi?
À Messi, comme d'habitude!
Oui, bien sûr, oui.
Ou à c'est Vinicius. Avec ça que nous.
Ou à Vinicius.
Ah, mais bien sûr. Vinicius n'est qu'un apprenti devant lui.
Exactement. Mais on, il attaque directement en disant du mal d'un joueur du Real. Mais je n'étais pas vu depuis longtemps. Que lui avez-vous fait?
Il commence tout de suite à se défausser, à sortir le parapluie.
Bref, un coup de gueule et un débat sur RFI France 24, en Facebook Live et sur la chaîne YouTube RFI Live. Mazette, ça claque. Bref, il y a Souel Kedir et Yann Bourdelat qui sont là. David Finzel qui a ficelé le canevas et Laurent Salerno dans l'oreillette qui me dit « On y va ». On aurait pu juste dire un point, c'est tout. Mais cette équipe de France nous inspire plus que cela. Tiens, comme le journal d'équipe ce matin, c'était zéro en une, titre nos confrères. Tellement triste, c'est le titre de l'article qui raconte le match d'hier face à Israël. Que dire d'autre en fait, après ce 0-0 consternant d'ennui et de je m'en foutisme, on peut le dire comme ça, face à Israël, les troupes d'un Didier Deschamps qui peinent de plus en plus à nous faire croire que tout va bien, ces troupes-là, sans Griezmann, Mbappé, c'est guignon. Et je l'ai lu ce matin sur le compte X de je ne sais plus qui, mais ils étaient certains, vraiment un certain nombre, à ne pas avoir apprécié le spectacle, et ça fait quelques semaines, quelques mois que ça dure, des commentaires négatifs. Évidemment, messieurs, les Bleus sont tombés bien bas. Allez, 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 Xavier Barret, je sais que...
Non, ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.
De quelle compétition ?
La Ligue des Nations.
Attends, la Ligue des Nations.
Ils font donc partie des 8 meilleures équipes d'Europe.
Waouh !
L'Angleterre est en Ligue B. Que auriez-vous dit si la France s'était retrouvée dans la situation de la Belgique, c'est-à-dire menacée de relégation en Ligue B ? Là, c'était nul. Là, c'était zéro. Là, on est d'accord, c'était pas un beau spectacle. En plus, dans un stade pratiquement vide... c'était, pour les circonstances que l'on sait, c'était vraiment des
Vous croyez vraiment que s'il n'y avait pas eu les circonstances, le stade aurait été plein ?
Pour un France-Israël ?
Ouais.
C'est pas certain, effectivement. Vous avez raison, parce que j'ai déjà vu un France-Israël il y a 20 ans. dans un stade de France où il n'y avait pas les événements qu'il y avait ces derniers temps au Moyen-Orient et où le troisième anneau était fermé. Donc, je suis d'accord avec
on
vous
en
là-dessus.
On en avait vu un aussi, il y a 30 ans, vous vous souvenez?
Oui, mais c'était au Parc des Princes, c'était plein.
Non, mais les Français s'étaient fait battre, ils avaient laissé échapper la qualif pour la Coupe du Monde.
Voilà, donc c'était plein. Bon, là, les circonstances n'ont rien arrangé au match. Mais après, Deschamps, il fait une sélection, il compose une équipe. Alors, on peut effectivement ne pas être forcément d'accord, et c'est mon cas. Moi, je pense qu'il faut mettre un numéro 10 dans cette équipe et pas trois milieux défensifs, comme à l'époque où lui, il jouait, et c'est lui qui faisait l'équipe avec Aimé Jacquet. Mais à l'arrivée, l'équipe de France fait partie des 8 meilleures nations européennes. Qu'est-ce qu'on aurait eu comme commentaire s'ils étaient dans la situation de la Belgique, encore une fois, je le dis, qui risque de descendre en Ligue B, ou de l'Angleterre, qui est en Ligue B?
Dis-moi devant qui tu gagnes, je te dirai ce que tu vaux. Cette Ligue des Nations vaut-elle quelque chose? Elle vous convainc, Yoro Mangara? Elle ne convainc pas, en tout cas, les téléspectateurs qui sont de moins en moins présents pour regarder ces matchs-là. Voilà, les faits sont là.
C'est des matchs amicaux que personne n'aime jouer, franchement. C'est ça la réalité. Tous ces forfaits...
On s'en est rendu compte hier.
Oui, c'est des forfaits et des gens qui traînent les pieds pour ne pas s'y rendre. Et en plus, moi, j'ai regardé 45 minutes de ce match. Pas tout le match, parce qu'à 19h, j'étais sur le match du Sénégal GMT, je veux dire, c'est-à-dire 20h ici. À 20h45, je zappe pour regarder quelques minutes
Et là, vous êtes endormi.
Et après, j'ai attendu la fin du match du Sénégal pour regarder les 45 dernières minutes. Mais que c'était ennuyeux. C'est comme si je passe du paradis à l'enfer, quoi. C'était comme match entre deux équipes africaines, le Sénégal et le Burkina. Mais j'ai eu beaucoup plus de plaisir à regarder ce match que, franchement, ce match entre la France et Israël.
Allez, Yoro, votre avis. Ah.
Non,
Fred,
petit message, le Facebook.
Bien sûr.
Il se déchaîne sur l'équipe de France à la Madrid. Alors, bon, je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudo. On en a marre de cette équipe de France ennuyeuse. La France sans Mbappé, c'est comme le Congo, nous dit Kanga Mucetu. La France ne doit même pas espérer battre l'Italie dimanche. Ce sera à Milan, hein, ce dernier match.
On va en dire deux mots. La régalade. Rémi. Allez, Rémi. Défendez les Bleus.
J'ai pitié de Xavier Barré.
Ouf.
C'est-à-dire, il nous
ça n'a pas changé.
C'est-à-dire, il nous prend la Belgique, qui peut être un département français, pour comparer les Bleus qui sont champions du monde, double champions du monde, et qui sortent d'ailleurs d'une autre finale de la Coupe du Monde.
C'est le nom qui fait peur, parce qu'il passe, c'est les Diables
Rouges.
Cette
fois-ci, nous dit, attendez, qu'auriez-vous dit par rapport à l'Angleterre, dont on sait que la dernière victoire remonte en 1966 donc, Xavier Barré, qui sait très bien que la France, la France fait partie du top 5 mondial. Xavier Barré arrive aujourd'hui, il dit, mais nous sommes les 8 meilleurs d'Europe. Donc, vous imaginez ça? C'est-à-dire que vous êtes dans le top 5 mondial et vous êtes en train de vous satisfaire d'un match nul contre Israël. Israël à domicile, de toutes les façons, n'a pas pu battre une équipe, je vous dis... Depuis pratiquement 20 ans, ils n'ont pas arraché un match nul contre une équipe du top 10 mondial. Israël a arraché ce match nul-là, et surtout devant un gardien de but qui porte le nom du président du Real Madrid, Pérez. Donc, vous vous rendez compte que Pérez était au goal. Et c'est lui qui a empêché à l'équipe de...
C'est le gardien remplaçant du Bayern de Munich accessoirement.
C'est pas possible.
Et il a montré qu'il avait quelques qualités.
Ce qui me perturbe, je suis plutôt d'accord avec Rémi, ce qui me perturbe, c'est qu'on parle de la France top 5 mondial. Mais depuis combien de temps la France ne joue plus au niveau du top 5 mondial? Quatrième 0-0 de l'année, du jamais vu depuis 20 ans. Pas de jeu, pas de case, pas d'idée. Une attaque consternante, on se croirait au PSG. Bah tiens... Ça tombe bien, c'est la même.
Il y a beaucoup de joueurs du PSG sur la pelouse. Zaïre Emery, Barcola, Dembélé était blessé.
Il y a eu 22 tirs de l'équipe de France.
Oui.
Et il y a eu effectivement un gardien, Dan Peretz, qui est le remplaçant du Bayern de Munich quand même.
Troisième.
Tous les clubs européens se l'arrachent, Dan
Peretz. Donc du coup, il a montré hier que ce n'était pas un mauvais gardien, puisqu'il a quand même arrêté des ballons... qu'on voyait au fond. Donc que cette équipe de France ne vous ait emballé personne, je l'admets bien volontiers. Mais même moi, elle ne m'emballe pas.
Vous dit, mais hier, le match nous apporte peu. C'est qu'elle n'emballe personne depuis des mois. Xavier, l'euro a été quelconque, voire nul. On n'a pas vu un bon match. On s'est ennuyé tout le temps.
Depuis c'est le Qatar et la finale de la Coupe du Monde, on s'est ennuyé en perdant l'équipe de France.
Mbappé n'est plus au niveau où il était.
Depuis que Kylian Mbappé est en baisse de régime. C'est ça la réalité.
Alors, on ne peut pas dire que depuis que Kylian Mbappé est en baisse de régime, c'est Didier Deschamps qui est en baisse de régime. Vous ne pouvez pas nous dire que, par exemple, Mbappé était habitué, bien évidemment, à faire des performances.
Mais il y avait une lumière avec lui. La finale de la Coupe du Monde, on sait tous.
En ce temps-là, Mbappé était tout au moins là.
Ouais, exactement.
Mbappé n'était donc pas là. Et nous jouons contre Israël. Je dois quand même vous rappeler que quand Mbappé était là, la France bat Israël 4 buts à 1. 4 buts à 1.
C'est ça.
Donc, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, sans Mbappé, les autres qui étaient en super forme, vous avez mis de l'autre côté Barcola. Barcola, vous vous rendez compte? C'est vous qui avez déplacé Mbappé pour laisser la place à Barcola. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui perd 16 ballons, qu'on appelle Olysée. Donc, à une certaine période aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui critiquaient Mbappé, ceux qui disaient qu'avec Mbappé, l'équipe de France ne joue plus bien, ils se rendent compte que l'équipe de France vaut double 0 sur 20 sans Mbappé. Comme le dit un proverbe africain, avec bien évidemment, le loup ne peut pas vivre sans forêt. Le poisson ne peut pas vivre sans eau.
L'équipe de France.
Non, mais c'est bien observé.
Mbappé. Mbappé
ne peut pas vivre sans
l'équipe de France.
C'est-à-dire que l'équipe de France ne peut pas vivre sans l'équipe de France.
L'équipe de France, à laquelle fait allusion Rémy Ngono, c'est une équipe de France qui n'était pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. C'est une équipe de France où il y avait encore l'ossature qui avait défini.
Et il ne parle que de Mbappé, moi j'ajoute avec Griezmann.
Avec Hugo Lloris, avec Raphaël Varane, avec Paul Pogba, avec Antoine Griezmann et Olivier Giroud aussi comme avant-centre pivot. Donc c'était une équipe de France qui a été championne du monde, finaliste de la dernière Coupe du Monde, avec cette qualité et cette stabilité. Qu'elle n'a plus. Donc là, Didier Deschamps, il est en train de reconstruire. Donc, il reconstruit avec des joueurs bourrés de talent.
On a bien l'impression qu'il a
perdu la main. Mais qui n'ont pas encore les automatismes. Mais bien sûr,
d'avoir perdu la main.
Olise, c'est sa combientième sélection, Michael Olise.
Bourrés de talent.
Des joueurs bourrés comme des parpaings.
Je vous l'ai dit. Michael Olise, effectivement, pour le moment, c'est une déception. Moi, je me souviens de sa première sélection.
Barcola, pour le moment, c'est une déception. Colomoigny, pour le moment, c'est une déception. Dernière, pour le moment, c'est une déception.
Colomoigny montre effectivement. Je pense les limites qu'il a, puisque là il a eu le temps de s'exprimer au poste d'avant-centre et on a vu que malheureusement il n'était pas plus en réussite qu'avec le PSG. Il y a des automatismes à travailler dans cette équipe de France. Vous avez beaucoup de nouveaux joueurs, vous avez surtout plus les cadres qui ont fait cette équipe de France pendant 10 ans ou même un peu plus.
Peut-être qu'il faudrait qu'il n'y ait plus Didier Deschamps non plus.
Alors, je ne suis pas certain parce que c'est pas lui qui est sur le terrain.
Deschamps est en train de semer les dernières journées à la tête de l'équipe de France, nous dit-il. La chute n'est pas très loin.
Hier, ils auraient mis Simon entendu Perret, ça sera pareil.
J'ai entendu le même discours sur Didier Deschamps après le dernier Euro, il y a trois ans.
Il a tout verrouillé.
Et derrière, qu'est-ce qui est arrivé? Finale de Coupe du Monde et demi-finale d'Euro. Donc, non, je pense qu'il a encore la capacité, parce qu'il a cette passion chevillée au corps.
Demi-finale d'Euro, miraculeuse. Le miracle, il aura lieu dimanche face à l'Italie. L'Italie, on le rappelle, 13 points sur 15, 4 victoires, 1 nul. Hier, victoire en Belgique, 1-0. La squadra semble de retour quand l'équipe de France...
Ils ont gagné au Parc des Princes 3-1. Donc, effectivement, c'est une nouvelle équipe d'Italie qui est intéressante, qui a de la qualité. Mais ils étaient où à la dernière Coupe du Monde, l'Italie?
Ils n'y étaient pas.
Ouais. Donc, ils se sont pris le temps, Xavier, à un moment, de reconstruire. Eh bien, Didier Deschamps, même si de temps en temps il doit reconstruire, l'équipe de France, elle va quand même dans les phases finales, alors que l'Italie, elle a raté les deux dernières Coupes du Monde.
C'est une histoire de bas.
Là, tu es en train tu es en train de vouloir tromper des gens parce qu'il n'y avait
pas
Spalletti.
C'est pas vrai, l'Italie n'a pas raté les deux dernières Coupes du Monde.
Attends. Depuis qu'il est arrivé, il a eu une seule défaite, c'était contre, je crois, l'Espagne. Mais en ce temps-là, vous avez vu, ils ont mis un système de jeu où vous n'avez pas des joueurs bourrés de talent, mais vous avez quand même une défense où vous comprenez un certain nombre de choses. Et puis vous avez, bien évidemment, deux pistons, Di Lorenzo et Di Marco, qui peuvent faire beaucoup de matchs. Ils ont essayé de cadenasser le milieu de terrain. Et il y a un système de jeu. D'ailleurs, face à la Belgique, ils ont eu 54% de possession. Ils ont tiré 11 fois, ils ont cadré. Au moins 4 fois. Donc, la reconstruction de l'Italie n'a pas pris le temps comme celle de la France, où je vois carrément,
pratiquement
depuis qu'il est là, vous mettez comme 58 fois remplacé. remplaçant. Mais Ousseini n'a jamais fini un match.
Ah, mais dans 10 ans, il sera encore là, quand même.
Oui, oui, il sera toujours remplaçant. Vous le laissez se rendre en Colisée.
Il n'était pas dans la liste.
Attendez, c'est comme reconstruction, ça.
Il n'était pas dans la liste initiale, Kingsley Coman. Donc on sait bien que, bon, bah voilà, il est plutôt sur la fin lui aussi. Peut-être ça aurait été bien de mettre un jeune, mais il y avait déjà beaucoup de jeunes. Et je pense que Deschamps, quand il a dû pallier au forfait d'Ousmane Dembélé et de Wesley Fofana, donc il a préféré prendre des joueurs qui ont l'habitude de l'équipe de France. Donc, en l'occurrence, Benjamin Pavard et Kingsley Coman, plutôt que d'aller rechercher encore des jeunes. Voilà, ils cherchent à avoir une continuité, une stabilité, alors que les cadres sur lesquels ils s'appuyaient...
Mais en 53-58 sélections, vous n'avez jamais fait jouer. Sur les
non, Olivier, on n'a pas tout dit. Il y en a un qui se régale.
Sauf les auditeurs.
Chardin, Bled, Symboli. Je suis souvent cette émission à la radio, sur RFI. Là, je suis en vidéo. C'est la première fois que je vois le visage d'Olivier Pron.
Eh ben, il doit pas être déçu.
Pourtant, je connais sa voix par cœur. C'est la magie de la radio.
Bah, il a mis une belle cravate. Hein, vous avez vu.
Alors, Chardin, il écrit d'où
là, j'ai Chardin, il faut dire. J'ai comme pas ça, la je salue d'eau. Encore mieux.
Boîte postale 2028, Mbombi. C'est un quartier de...
Allez, souriez, Olivier.
De Yaoundé.
C'est un quartier de Yaoundé, ça, quand même.
Souriez,
j'ai que des amis là-bas, depuis que je dis du mal de leur football. J'ai que des amis là-bas. Ben merci, ça fait pas de temps, du coup ben, je vais m'arrêter là. Hein. Merci à tous d'être venus. On a parlé de l'équipe de France, c'est très très bien. Dites-moi quelque chose sur l'Italie. L'Italie qui revient, c'est de ça dont on parle finalement, de creux, de haut, de bas. Toutes les équipes ont des cycles. L'équipe de France, moi, me semble aller vers un cycle négatif. Comme toute l'Espagne a connu ça, elle revient au top. L'Italie a connu ça, elle est en train de revenir. Est-ce qu'elle revient vraiment? On terminera sur la Ligue des Nations là-dessus. Que pensez-vous, chacun, de cette Italie-là qui semble enfin revenir d'entre les morts?
Déjà, Spalletti, c'est quelqu'un qui est l'antithèse de Didier Deschamps parce que lui, il aime le jeu, il aime proposer du jeu. En plus, il a trouvé l'avant-centre que l'Italie n'avait pas ces dernières années, à savoir Retegui, meilleur buteur de la Serie A, qui est argentin, qui marque beaucoup de buts.
On en a parlé mardi.
Il y a déjà... Donnarumma, qui est une valeur sûre de cette équipe nationale. Ils ont de l'équipe nationale. De l'équipe nationale, si, quand même. Même à l'Euro, il a été excellent.
Il est en sélection.
Franchement, c'est une valeur sûre
c'est
de cette
sélection.
C'est dingue,
ces gars qui sont meilleurs en sélection
que PSG. Récupérer Tonali, qui a été suspendu pendant de longues années aussi, pendant presque 14 mois, récupérer ce joueur-là. Et puis, il y a Moïse Kean, qu'on voit à l'écran, qui est également super bien.
8 buts cette
marque,
saison en
Serie A aussi.
Qui marque
beaucoup de buts avec la Fiorentina.
Deuxième
je crois
championnat
qu'ils ont,
avec l'Atalanta.
Voilà, de petites pépites comme ça, sur lesquelles on peut construire quelque chose de solide.
Il n'est pas titulaire, hein, mais je crois quand même que cette équipe d'Italie ne concède pas beaucoup d'occasions parce que, vous voyez, au niveau de la défense, ils ont reconstruit... avec trois défenseurs, c'est-à-dire que Buongiorno, qui est bel et bien là, et vous avez justement quelqu'un qui a déjà une certaine expérience également. Donc, c'est pour ça que je dis que lorsque vous regardez l'assise défensive de l'Italie, et surtout, il a commencé avec 4 milieux de terrain, mais maintenant, pratiquement, il a joué là avec 5 milieux de terrain. Et il domine pratiquement tous les adversaires qu'ils ont réussi à rencontrer. Et ça fait que sur les côtés, ils se projettent très, très vite. C'est pour ça que je dis que cette équipe d'Italie est mieux organisée tactiquement que toutes les équipes d'Italie que j'ai vues toutes ces dernières années.
Peut-être que les latéraux français en ce moment, c'est pas tout à fait ça non plus. Si on compte tous comme Rémy Ngono, on joue à 13 alors.
Olivier.
Parce qu'il a 5 défenseurs, 5 milieux de terrain, ou alors il n'a pas d'attaquant.
Non, j'ai 3 défenseurs, monsieur. Et au moins, quand vous venez à la télé, nettoyez vos tempêtes.
Quand on parle de latéraux,
j'ai parlé de 3.
Sur les phases défensives, ils sont à 5
derrière. J'ai dit 3 défenseurs.
Il nettoie ce qu'il veut à la télé. Le mot de la fin pour Fred Sudo.
Ouais, sans que Kishimba, il a beaucoup aimé le débat, France, Israël, Italie, mais il dit, s'il vous plaît, vous pouvez parler de l'Afrique.
Et on y vient.
Justement, on y vient.
Oh, c'est la transition.
Mais c'est magique, là. La passe décisive.
Vous
L'équipe
avez répété,
de France devrait écouter.
Vous avez répété,
un bon exemple
pense,
de passe décisive.
Ça, c'est...
Allez, justement, monsieur Salerno, on y va pour l'Afrique. Ils étaient 48 au départ en poule. Ils seront 24 au Maroc dans 13 mois. 15. Ils sont déjà, ils s'y sont vus, ils s'y voient, ils ont raflé les tickets. Deux petits nouveaux ont pris leur billet hier. Hier, nous étions donc jeudi, le Nigeria et la Tunisie. Première question pour vous tous, logique, Euro, hein, Tunisie, même si ça a été compliqué, on va y revenir, on va décortiquer le programme des uns et des autres, mais Nigeria et Tunisie, une CAN sans eux, ce serait...
Nigeria, ils étaient mal partis, ils reviennent fort. Après, au début, ils n'avaient pas aussi tous leurs joueurs. Et puis la Tunisie est une valeur sûre du football africain. Elle n'est jamais attendue, mais toujours présente.
Ah oui, mais toujours présente. Il faut quand même voir le but. C'est à la 93e minute avec
mais
cette tête rageuse là. Attends. Donc on peut dire ça.
C'est compliqué. On va y revenir, bien sûr.
Il y a un petit côté équipe de France, Didier Deschamps, la Tunisie. C'est laborieux, mais c'est toujours
c'est
là.
C'est ça. Oui, alors la grande différence avec l'équipe de Didier Deschamps, c'est que la Tunisie, ça va jusqu'en quart, en CAN, puis ça va jamais plus loin.
C'est vrai. Voilà. Il y a eu un titre de champion d'Afrique.
Il faut donner un peu de bon cœur à Xavier Dupont. Les gars, il se fait tomber dessus. L'équipe de France, elle va en finale.
De la dernière Coupe du Monde, je crois qu'il y avait 10 joueurs dans la sélection tunisienne qui étaient nés en France. Donc, il y a aussi un certain nombre de joueurs qui ont été formés dans les centres de formation des équipes françaises. Donc, c'est un peu normal qu'on retrouve notamment cette rigueur défensive dans la...
On va y revenir sur la Tunisie. Quelques mots sur le Nigeria, 1-1 au Félicia, à Abidjan. On aime tellement tous, je crois, ici, ce stade. Fouet Boigny à Abidjan, qui a été toiletté pour la CAN et qui est vraiment magnifique, un stade en pleine ville. 1-1, donc, face au Bénin, but de Victor Osimhen. Bon, voilà, à leur main, tranquille, le Nigeria, sur sa lancée de la finale de la dernière CAN. On a presque l'impression qu'ils sont, du coup, favoris, parmi les favoris de la prochaine.
Oui, j'ai quelques craintes par rapport à leur gardien de but et la défense, même s'ils ont encore Bassé et peut-être Trostekong. Mais bon, devant, c'est quand même énorme. Quand on a Lookman, Osimhen, Boniface, c'est quand même...
Oui, bien sûr.
Et Moses Simon, c'est quand même très fort devant. Mais pour gagner une Coupe d'Afrique, il faut une bonne défense et un bon gardien de but. Et pour l'instant, le Nigeria ne l'a pas.
Xavier, un petit mot sur les Super Eagles. Ça vous plaît, les Super Eagles?
Oui. Mais
vous aimez ce football-là et cette équipe-là?
C'est l'équipe qui est toujours attendue. C'est l'équipe qui est toujours favorite parce qu'ils ont l'habitude d'être dans les phases finales, en Coupe du Monde.
Eux, contrairement aux Tunisiens, ils sont souvent en finale ou en demi.
Et ils vont souvent au bout. Après, je trouve souvent ce qui manque à cette équipe du Nigeria, c'est un véritable osmose, un vrai collectif. Il y a des individualités très fortes. Et trop souvent, les sélectionneurs qui se succèdent font confiance aux talents, notamment des attaquants. Et ça a été encore le cas lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où ils pouvaient s'appuyer sur la vitesse de Moses Simon, de Lookman Adebola et le sens du but de Victor Osimhen pour aller faire la différence. Mais après, dans le collectif, je trouve que ça manque encore de liant. Alors, il faudra voir s'ils ont le temps d'élaborer un collectif plus soigné, plus irrésistible lors de la prochaine phase finale. Mais j'en suis pas toujours convaincu.
Rémi, un mot sur les Super Eagles, ça vous plaît ça?
Il faut savoir qu'ils n'ont pas été convaincants. Ils ont été pratiquement comme du courant alternatif. Peut-être parce que tous les joueurs n'étaient pas là, mais quand même, ils ont eu beaucoup de difficultés. Et puis, le Nigeria, c'est une armada offensive. Mais c'est des gros noms d'Europe. Parce que quand vous essayez de regarder tout ça, même lors de la dernière CAN, le Nigeria ne se démarque pas par son attaque. Mais plutôt, le meilleur joueur, c'est Trostekong. C'est-à-dire que la défense, et d'ailleurs que le gardien a réussi à faire de bons arrêts. Et on a même constaté que n'eût été peut-être un Osimhen qui a malmené l'équipe du Cameroun, le Nigeria serait passé inaperçu sur le plan offensif. Donc, je crois que cette équipe qui a aujourd'hui des atouts offensifs devrait miser justement sur ça que de jouer, par exemple, sur les contre-attaques. Contrairement à ce qu'on a vu, il faudrait que le Nigeria puisse se métamorphoser et puisse véritablement laisser les attaquants s'exprimer. Ils ne s'expriment pas, ils jouent à des rôles qui ne font pratiquement pas en Europe.
Et il faut travailler aussi sur la continuité. Entre la CAN et aujourd'hui, c'est trois entraîneurs. P0 est parti, ils ont viré Sunday au lycée. Aujourd'hui,
ils en ont même fait venir un qui n'est jamais arrivé jusqu'à Lagos.
Exactement. Hein. C'est le problème de cette équipe. Ils ne peuvent pas travailler dans la durée. Il faut changer de sélectionneur tous les 6 mois. Ce n'est pas possible.
Puisque je vous ai sous la main, on en a parlé, me semble-t-il, mardi ou mercredi. Dans un mois, le 16 décembre, sera remis le Ballon d'Or africain. Ce sera au Maroc. Deux favoris, on va le dire comme ça. Serou Kirassi, le Guinéen, et Ademola Lookman, le Nigérian. Est-ce qu'il n'a pas vraiment et quasi définitivement une longueur d'avance, Lookman? Y a-t-il encore deux favoris ou...
J'aimerais bien que ce soit Serou Kirassi par rapport à la proximité, par rapport à ce qu'il a fait. Mais je crois que Lookman a une longueur d'avance parce que quand même, mettre un triplé dans une finale de Coupe d'Europe, ça n'arrive pas tout le temps. Et ça, ça marque les
performances. Et il a été très bon sur l'ensemble de l'année 2024.
Il a été très bon à la Coupe d'Afrique.
Il va en finale de la CAN et il fait une très bonne CAN, alors que malheureusement, Serou Guirassy était blessé et qu'on ne l'a pas assez vu à la CAN. Donc, je pense
et puis Serou Guirassy fait un début de saison là, moins performant que celui
mais
de...
Mais non, c'est quand même 6 buts en 7 matchs.
Il vient de changer de club, donc ça encore on peut... Mais sur la saison, effectivement, vous l'avez très bien dit, Lookman Adebola, il est présent tout le temps, alors que Serou Guirassy, notamment à cause de ses blessures, il n'est pas toujours là.
Rémi, qui sera Ballon d'Or africain le 16 décembre?
Je crois que c'est Lookman.
À Marrakech. Hein,
je crois que c'est Lookman parce que d'ailleurs, même lorsqu'on joue la Super Coupe d'Europe, le seul joueur qui a créé des problèmes au Real Madrid, c'était toujours ce même Lookman-là. Donc je crois quand même que Lookman, c'est un joueur insaisissable qui, sur le front de l'attaque, joue à tous les trois postes. Ce qui signifie que je le trouve beaucoup plus parfait polyvalent. Techniquement et sur le plan de la polyvalence, il répond à tous ces critères-là et d'autant plus qu'en Afrique, tout comme aussi, même si certains matchs aussi au niveau de la Coupe d'Afrique, parfois il a été laissé au banc, mais quand même en Europe, c'est quelqu'un qui a confirmé tout le bien qu'on pensait
de lui. Et
logique pour logique,
c'est le seul Africain dans les 20 premiers au Ballon d'Or.
Ballon d'Or, voilà.
On a quand même un petit drapeau guinéen, il y en a même plusieurs. Là, mais Ibrahima Kalilba, Guirassy est le meilleur joueur de l'Afrique, je vous l'écris, je vous le dis.
Mais bien sûr, et c'est son droit. On n'est pas obligé de le croire, c'est juste le truc qui change. Dans le groupe du Nigeria, un tout petit mot du Bénin qui est deuxième, qui devra résister. On aimerait bien que les Béninois y soient. Bon, on a le droit de préférer le Bénin à la Libye, hein. Chacun fait ses choix. Et c'est Gernot Rohr qui est à la tête des Guépard béninois, il s'appelle ainsi maintenant. Les Béninois devront résister à la pression libyenne en Libye lors de la dernière journée. Bon, voilà, pour ne pas se faire coiffer, ils ont un peu d'avance. Ils peuvent se contenter d'un nul, mais...
Et ils peuvent aussi bénéficier de ce que le Nigeria a bénéficié il y a 3 semaines. Ils vont dormir au... Comment ça s'appelle? À l'aéroport et gagner les 3 points.
À l'hôtel aéroport.
J'ai regardé cette équipe il y a moins d'un an à Amiens face au Sénégal en amical. C'était qu'un match amical. Mais ça joue bien, c'est cohérent et techniquement, il y a de quoi faire avec cette équipe béninoise. La dernière fois qu'ils ont fait une Coupe d'Afrique en 2019, ils ont été en 8e ou en quart éliminés par le Sénégal, but d'Idrissa Ganagué. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile pour les Lions du Sénégal.
Il y a l'expérience de Gernot Rohr. Enfin, hein, lui aussi, ses matchs au couperet, au couteau, il les connaît. Et moi, je pense qu'ils seront prêts.
On salue au passage tous nos auditeurs au Bénin.
Ils se sont fait un peu avoir lors des dernières phases éliminatoires. Hein. Faut le rappeler, ils sont éliminés de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde par les
Léopards
du Congo.
Ils font
5 changements en 4 fois, alors que c'est en 3 fois maximum. Après, ils se font avoir par la Gambie, je crois, lors d'un match bizarre.
Ce serait logique. C'était au Libéria, non, aussi,
ou en Sierra Leone. C'était au Libéria,
c'était en Sierra Leone où il y a eu. C'était
en
Sierra Leone. Michel Dufuyet qui était.
Oui, c'est ça déjà.
On va en reparler de l'ami Michel.
Donc je pense que
Michel.
Le match avait été joué le lendemain. Enfin bon. Ouais.
Allez, quelques mots sur la Tunisie. L'autre qualifié hier, donc le 15e qualifié pour le moment pour cette CAN, une Tunisie qui nous a vraiment inquiété tout le long de ces qualifications, notamment face aux Comores. Il y a un mois, on rappelle, défaite à domicile face aux Comoriens. Exactement. Ensuite, match nul là-bas. Ça a été compliqué hier. Alors, ce n'était pas à Madagascar, mais c'était censé l'être. C'était à Pretoria, me semble-t-il, en Afrique du Sud. Victoire 3-2, mais... C'est pas chatoyant.
Il faut leur reconnaître cette qualité, les Tunisiens, c'est qu'ils renoncent jamais. Parce que déjà, le match aller contre le Madagascar, ils avaient gagné 1-0 avec un but à la 90 plus 8. Donc, ils étaient vraiment allés la chercher au forceps, cette première victoire. Là, ça a été pareil encore lors du retour. Entre-temps, ils s'étaient fait piéger par les Comores chez eux et ils avaient fait match nul lors du retour qui était en Côte d'Ivoire, je crois, le match. Donc, du coup, c'était un groupe compliqué, en fait, pour les Tunisiens qui n'ont pas eu leur maîtrise habituelle. Mais on assiste aussi à un changement de génération chez les Tunisiens. Il y a beaucoup de jeunes, à l'image du gardien, d'ailleurs, qui a du talent, mais qui a encore des trous d'air de temps en temps et qui a pu prendre parfois des buts un peu casquettes. Donc
comme
c'est
hier.
Voilà, comme hier. Et donc, c'est ce renouvellement qui est en cours. Voilà, la génération Kazri, toute cette génération-là va petit à petit laisser place. Et il faut trouver de nouveaux talents. Le défi du sélectionneur de la Tunisie maintenant, même si lui n'est pas de première jeunesse, puisqu'il a 75 ans, je crois, Benzarti. En tout cas, il est plutôt jeune. Mais bon, il a autour de lui une équipe technique qui, justement, essaye d'aller dénicher ses nouveaux talents.
Claudio Ranieri, 73 ans, fait
voilà,
son retour.
Il y a par exemple Hannibal Mejbri, qui a été formé en France et qui a...
Ouais.
qui est passé par Manchester United brièvement, qui est à Burnley maintenant, qui, sur lequel ils fondent de gros espoirs. Alors, il doit encore s'étoffer, mais il y a des joueurs de talent pour la relève, mais ils ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts.
Un mot sur la Tunisie, Euro.
Elle est à l'image de ses clubs. Même ces clubs n'y arrivent presque plus en Afrique. Voilà, il y a l'hégémonie.
L'espérance, quand même, qui est souvent.
Oui, mais il y a l'hégémonie Arli. Avant, c'était l'espérance. Ça montre. Et puis, ils perdent leurs meilleurs joueurs qui vont signer soit au Maroc, soit en Égypte. Et on comprend pourquoi cette équipe ne marche pas. Alors qu'avant, c'était le socle même des joueurs de cette sélection.
Euro, la Tunisie, ça vous inspire?
Non.
Ouais. J'ai bien senti. On n'est pas obligé de développer. Oh,
honnêtement, ça ne m'inspire pas.
Jean-Pierre Dembélé. Jean-Pierre Dembélé nous dit Tunisie, c'est l'Italie d'Afrique.
Il ne parle pas de mon physique.
Il y a un élément. Pas tous, Olivier.
Olivier, il y a un élément qui est très vrai dans ce que vient de dire Euro, puisque ça n'inspire pas Rémine Gonod. C'est les problèmes économiques de la Tunisie en général et du football tunisien. Par exemple, un joueur comme Mohamed Ben Romdan, qui pour moi est un super joueur. Milieu de terrain offensif de cette équipe. C'était le meneur de jeu de la sélection tunisienne. Vous savez dans quel club il évolue aujourd'hui ? Au Ferencvaros de Budapest. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un des meilleurs joueurs tunisiens, si ce n'est le meilleur, il ne reste pas au pays parce qu'ils ont des problèmes économiques, et il va en Hongrie. Il va en Hongrie. Donc ça révèle effectivement, ça résume les difficultés aujourd'hui économiques du football tunisien.
Allez, 9 places encore à prendre, les deux du groupe I, qui ne devraient pas échapper au Mali et au Mozambique. Une place dans le groupe H, ultra dominé par la RDC, qui demain samedi sera à Abidjan au stade Débimpé, que l'on a bien connu lors de la dernière CAN, pourrait être accueilli par la Guinée, un Sili national qui ne comptait que... Bah, 0 point. Après 2 journées, la cata, le gouffre. Et puis, Michel Dussuyer est arrivé, le pompier. 2 victoires contre l'Éthiopie plus tard, 6 points. Et la 2e place du groupe. Mais il faut encore éviter le retour des Tanzaniens qui sont à 2 points. Et chez qui le Sili ira mardi. Ça va le faire, Euro ?
Je crois. Parce qu'ils sont dans une dynamique après leurs 2 victoires face à l'Éthiopie et les 5 buts claqués en 2 matchs par Serro Girassi. Déjà, je crois l'avoir dans cette équipe. Avec ce qu'on a vu à la CAN, c'est en plus. Lui peut permettre à cette équipe du Sili à passer ce cap, à se qualifier. Et puis, il y a Dussuyer derrière qui connaît le Sili, qui connaît l'Afrique, qui connaît cette équipe. Et je crois que s'il était là depuis le début, il serait qualifié depuis. Franchement, il ne faut pas faire aussi la fine bouche et ne pas dire la vérité.
Là, Rémi, je suis sûr que vous serez plus disserte que sur la Tunisie. On aime le football guinéen. On veut Serro Girassi à la CAN. Non.
Entre vouloir et pouvoir, il y a une
mais
grande
différence. Mais qui veut
peu. Ouais. Non. Vous savez,
on est sorti des proverbes africains, là, les gars.
Il y a une différence par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire, quand tu regardes l'équipe de Guinée, oui, il y a Girassi, mais il y a un proverbe africain qui dit « Un seul morceau de bois ne fait pas un radeau ».
Il n'est pas le seul.
Aujourd'hui,
il n'est pas le seul.
Attends, mon cher. Dans les statistiques, et même quand on prend des rencontres, depuis 1970, eh bien, la Guinée, le Sili national de Guinée, n'a eu qu'une seule victoire devant les Léopards de la RDC.
Et la RDC n'a pas pris de but depuis 5 matchs.
Et de
8 victoires de suite. 8 victoires de rang.
Voilà, c'est-à-dire que lorsque vous regardez les statistiques, on est à 9 matchs. Donc, et puis, si vous prenez tout simplement, depuis la dernière fois que... le Sili de Guinée a gagné contre la RDC.
C'est 8 victoires, c'est
8 matchs sans défaite. Il y a de cela 20 ans. Donc nous étions en 2004. C'était un match à la CAN en Tunisie. Maintenant, lorsque vous essayez de prendre depuis 2016, vous vous rendez compte que, eh bien, c'est 4 victoires d'affilée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire entre-temps? Si vous regardez que, par exemple, là, pour le match qui était le 2 février 2024, ils ont pris combien? Ils ont pris 3-1. Avant cela, ils ont pris 3-1. Et même à domicile, la Guinée a perdu face à la RDC par 2-1. Ce qui signifie que vous avez 8 buts.
Mais ça, c'est l'équipe. Ça, c'est l'équipe.
Oui, mais là, on a une RDC qui est qualifiée déjà.
C'est pour ça que je t'ai dit.
Guinée en plein boom.
Aujourd'hui, la RDC ne perd pratiquement pas. Oui. Et aujourd'hui...
8 matchs sans défaite.
Ah oui.
Cette
équipe-là va arriver dans la maison des Léopards. Dans la maison des Léopards, il y a un proverbe africain qui dit...
Le troisième.
Quand
le chat arrive dans la maison.
Les souris dansent. Voilà. Il n'est peut-être pas tout à fait africain, celui-là.
Vous nous l'avez volé.
Voilà. Allez,
le chat enchaîne. Et le léopard, c'est en Afrique, c'est pas en France.
Les léopards ont éliminé la Guinée lors de la dernière CAN. Et cette équipe de Guinée a changé de sélectionneur aussi. Il faut rappeler que Kaba Diawara a été sur le banc pendant plusieurs années, qu'il a travaillé pour faire venir notamment des joueurs nés en Europe pour étoffer son effectif. Et puis aujourd'hui, bien, tout a été remis en cause. Et il y a beaucoup de ce travail qui n'est pas forcément suivi de la même manière. Donc, je pense
Michel que... Michel Dufilier a bien dit qu'il venait en pompier. Hein.
Il, oui, bien sûr.
Il n'a pas l'intention de rester. Il est là pour
Il est en opération commando. Et malheureusement, je crains que ce ne soit pas la meilleure formule, alors que justement, la Guinée s'était installée sur la durée avec Kaba Diawara.
On suivra ça demain et jusqu'à mardi. Tous les résultats, tout ce qu'il faut savoir sur ces qualifications pour la CAN 2025 sur RFI.fr. Bien sûr, on part en Amérique du Sud. Boys, bad boys, bad boys. Voilà, pour illustrer, nous voici en présent en Amérique du Sud, cette zone où les qualifs n'ont en général aucun intérêt, là pour le coup vraiment, sauf de savoir qui de l'Argentine ou du Brésil sera devant. C'est à peu près le seul suspense. L'un et l'autre hier se sont d'ailleurs pris les pieds dans le tapis. Leader, les Argentins sont tombés au Paraguay, 2-1. Les Brésiliens, 3e, ont été tenus en échec un partout au Venezuela. Voilà pour les résultats. Mathématiquement, ça ne change pas grand-chose. Non. Ce qui pose question, ce qui fait tâche, on va prendre 4-5 minutes pour en parler quand même, et ce dont beaucoup de relais médias parlaient ce matin, c'est cette image calamiteuse, encore une fois donnée par deux stars de ces équipes, une dans chacune, Vinicius, 5 buts en 36 sélections, on le rappelle, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, qui rate un pénalty, provoque, ça il sait le faire très très bien, un carton rouge, puis finit par insulter le quatrième arbitre. Messi, lui, alors on aimerait tellement qu'il s'exprime autrement que comme ça, enfin manifestement, déjà quand il était au PSG, il ne faut pas savoir ce qu'est un micro ou une radio. Alors lui, il s'en est pris à l'arbitre qu'il accuse de ne pas avoir eu le courage de ne pas siffler les fautes contre lui. Alors c'est beaucoup de fautes.
Il faut dire, il a insulté. Pourquoi est-ce que vous dites Vinicius a insulté? Il s'en est pris à l'arbitre. Oui, pourquoi vous voulez expliquer?
C'est parce que moi, je n'aime pas les répétitions. Alors j'essaye de. Vous voyez, c'est
imagé. Oui, mais vous avez dit insulté.
Rassurez-vous, je mets les deux dans le même panier. Voilà. C'est l'image renvoyée. Ça fait partie de cette dégradation de l'image du foot. Il y en a marre de voir ces stars. Il y en a marre de voir la pleureuse Vinicius. Hey, je voulais avoir le ballon d'or. Mais change d'attitude, mon gars, tu l'auras peut-être, le ballon d'or. Et Messi, on voudrait tellement le voir autrement. T'es en fin de carrière. Arrête d'aller insulter. Vous vous rendez compte des dommages que ça peut faire? Un enfant de 8 ans, 9 ans qui voit ça, le mercredi après-midi ou le dimanche matin, quand il a un éducateur qui lui dit, tiens, il faut faire ça, il peut lui parler comme ça parce qu'il va dire, mais moi, Messi l'a parlé comme ça, donc je vais faire pareil. C'est l'image que ça renvoie qui me perturbe. Et vous avez le droit de ne pas être perturbé. Vous avez des enfants qui jouent au foot, ils ont des éducateurs.
Effectivement. Et ça se passe mais très sauf bien. Que vous ne mais pouvez vous pas mettre Vinicius et Messi dans le même sac. Parce qu'il faut savoir que dans la durée, Messi le fait depuis fort longtemps. Ah. Vous ne pouvez pas accuser
Vinicius. Comme il le fait depuis longtemps.
Non, attendez.
Il y en a un qui jouait au Barça, il y en a un qui joue au Real.
Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que vous avez un père de famille qu'on appelle Messi, qui est quand même détenteur de 8 ballons d'or et qui souvent, parce qu'aujourd'hui vous dites qu'il joue à la pleureuse, on a enlevé un ballon d'or à Vinicius sous prétexte que justement c'est la pleureuse, bah, c'est lui qui...
Il y a 110 journalistes qui votent, mais ils ont voté en leur âme et conscience, tant pis, et Rodri,
monsieur
c'est pas Prend, un ballon d'or,
monsieur bah, Prend. Ouais,
pourquoi pas.
Le 8e ballon d'or de Messi.
Non, il était honteux.
Il
était honteux.
Mais attendez, le 8e. Non. Laissez-moi parler. Mais ce monsieur ne me laisse jamais parler.
Dès
que
je prends la parole, on a fait
des émissions spéciales. Laisse-moi parler. Laisse-moi finir.
Il faut expliquer les choses.
Mais pourquoi est-ce que c'est comme c'est toi? C'est toi qui perds. Tu ne peux pas. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est monsieur. Oh, mais je gérerai la parole. Parlons à deux. On va voir qui va s'arrêter. C'est bien ce mot. Allez.
Oui, vous vouliez dire
20 secondes.
Mais je disais tout de suite que lorsqu'on parle de pleureuse, oui. Nous sommes là en ce qui concerne le 8e ballon d'or. Oui. Qu'est-ce qui se passe avant ce 8e ballon d'or? Messi va insulter copieusement sur le terrain et en direct, en train de faire l'interview,
oui.
Un joueur néerlandais.
10 secondes.
Et auprès de cela... Il va aussi insulter le sélectionneur néerlandais.
Ne replantez pas le décor.
On ne lui donne pas le moindre carton. Et il faut savoir qu'après, on le récompense d'un ballon d'or. Mais avant cela, pour aller à la Coupe du Monde,
donc, du coup,
en 2018, il a insulté l'arbitre. Il a insulté l'arbitre.
Il faut juste replacer
les choses. Et il vient encore d'insulter l'arbitre, là,
en MLS. Il faut juste replacer les choses dans leur contexte. Parce qu'effectivement, on ne peut pas accepter, donner en exemple ces insultes. Mais il faut juste replacer les choses dans leur contexte. En Amérique du Sud, ces matchs éliminatoires dont vous dites que l'intérêt sportif est limité, ce sont des véritables fournaises, les ambiances. Ouais. Les ambiances. Là, le Brésil était au Venezuela, c'est un défi. Chaque fois que le Brésil se déplace, de toute façon, ils sont attendus comme l'équipe qu'ils sont. Donc, eh ben, ils sont insultés par les adversaires qui veulent voir leur équipe nationale battre le Brésil. Et l'Argentine, c'était...
Moi aussi, je te coupe.
C'est un peu plus,
ça,
c'est un peu plus complexe que ça.
C'est pas pour ça parce que c'est moi... Parce que
c'est un peu plus complexe que ça, c'est parce que le siège de la Confédération de la Comebol est au Paraguay, à Asunción.
Ça n'a rien à voir.
C'est comme quand on dit que c'est très difficile d'aller gagner en Égypte ou contre le National du Caire, en Afrique, c'est très compliqué d'aller gagner au Paraguay parce que c'est le siège de la Comebol.
Pour moi, c'est loin du sujet. Je suis désolé, l'un et l'autre. Euro, on va conclure là-dessus.
Mais Messi le dit à l'arbitre. Il lui dit à l'arbitre, tu n'as pas de.
Donc Messi subit trop de pression et c'est pour ça qu'il craque.
Prend des coups des défenseurs paraguayens. C'est... On est au Paraguay et l'arbitre n'ose pas sanctionner les joueurs paraguayens.
Je voudrais...
Et d'ailleurs, c'est celui qui lui met un tacle qui marque le but de la victoire.
Et c'est pour ça qu'elle s'est autorisée.
Je voudrais le mot de la fin sur ce sujet. Chut, Rémi.
C'est inadmissible, voilà.
C'est inadmissible, l'un comme l'autre, on est d'accord. Ce qu'on a vu hier, des joueurs de ce niveau-là n'ont pas à faire ça. L'image... renvoyé et calamiteuse. Bon voilà.
Mais je suis d'accord avec vous.
Voilà. Si
je suis
bien content.
Je l'ai dit.
Mais on s'en fout, c'est pas Ronaldo.
Je l'ai dit, mais j'ai expliqué.
Ouais.
Je l'ai dit, mais j'ai essayé d'expliquer parce que pendant que Raymond Gonod nous faisait son solo.
Voilà. Je vous remercie encore une fois d'être venu. Concentrez-vous sur vos cartons, c'est le moment.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Et puis on va laisser les esprits chagrins et belliqueux se calmer un peu. Et on va écouter vos cartons à vous, les auditeurs de Radio Foot.
Bonjour Radio Foot International, je suis Honoré Dem, Togolais vivant en Italie. Hélas, malheureusement, mon pays ne participera pas une fois de plus à la CAN au Maroc. Carton rouge aux éperviers du Togo. Carton rouge au staff des éperviers du Togo. Carton rouge aux dirigeants de la Fédération togolaise de football. J'espère qu'ils vont se remettre en question. Honte à eux.
Sénégal, Sopounel, Sopoubal, Dounou Nalawati, Yayi Beglo, Sénégal. C'est Brim Cham depuis Sénégal. Plus précisément à Kaolack, je voudrais donner un carton vert. Vert comme le couleur du maillot que le Sénégal Sénégal a porté hier soir face au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Tout le Sénégal apprécie la manière dont l'équipe nationale a joué hier. Vraiment, c'est ça qui nous manquait. Vraiment, on apprécie vraiment carton vert, l'équipe nationale du Sénégal.
Bonjour Radio Foot International, bonjour, moi c'est Abdoulaye Zain depuis la République centrafricaine, précisément à Bangui. Alors, mon carton rouge qui va directement à l'équipe nationale centrafricaine. Ils nous ont déçus encore hier. On pensait qu'on allait gagner le Soto et on joue une finale contre Gabon le lundi. Salut Rémi N'Golo.
Bonjour Radio Foot International, je suis Nojit Baye, archiduc Théodore d'Anjamena au Tchad. Je donne un carton de couleur rouge à l'équipe nationale des Saouis du Tchad qui n'arrive pas à se qualifier pour les prochaines CAN au Maroc. Les Tchadiens aiment le football, mais on n'a pas une équipe de football compétitive et c'est vraiment déplorable.
Salut Radio Foot International, je suis Yao Kwaku Florent, Ivoirien vivant à Boaké. Alors pour ce vendredi, je donne un carton vert aux éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont qualifiés avant leur match contre la Zambie. Comme le dit un proverbe ivoirien, les Ivoiriens se qualifient toujours par le match des autres. Suivez mon regard, Maroc, on arrive.
Bonsoir Radio Foot International, c'est Sébastien Colopier-Théa depuis Farana en Guinée-Conakry. J'ai un carton jaune aujourd'hui pour l'équipe de France qui a enregistré son 4e match nul fermé de l'année. 0-0 contre l'Israël. Oui, l'Israël. C'est dommage pour moi qui suis allé regarder un match dans un vidéoclub à prix d'or et sorti avec aucun souvenir. Carton jaune à dessin et saison. Rémi N'Golo, ciao.
Bonjour Radio Foot International, je suis Vélo Montas, je vous écoute du côté des États-Unis d'Amérique. J'adore ce carton vert à Melchi Darrell Dumonet qui vient d'inscrire un lob de 46 mètres pour offrir la victoire à la formation lyonnaise de football de 2-0. Merci Daniel Dumoné, meilleure joueuse de la CONCACAF, bien sûr la future Ballon d'Or de l'année 2024-2025. On est fiers de toi et on te souhaite déjà bonne chance et on te dit à l'assaut.
Bonjour Café des Sports, je m'appelle Paulin Senga depuis Kisangani, RDC. Je donne mon carton rouge au sélectionneur de l'équipe de France. Aujourd'hui, l'équipe de France est qualifiée à la Ligue des Nations par péréquation et pour ne pas sélectionner l'un des meilleurs attaquants du monde, Kylian Mbappé. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Salut Café des Sports, c'est Philon Bailly à Yamoussoukro. Aujourd'hui, j'ai adressé un carton spécial à toute l'équipe de Radio Foot International parce que c'est l'émission où tous on se retrouve. Cette émission est à politique. Jamais de politique, on parle que de sport et en particulier de football. Merci à vous de nous rassembler car le football est ton sport fédérateur où tout le monde se retrouve. Merci et bonne émission à vous.
Il a oublié un petit détail, le dernier. C'est une émission où Raymond Gonod parle beaucoup et fort et Xavier Barré passe son temps à vouloir le couper. J'ai bien résumé pour un retour, c'est à peu près ça. Rémi, tiens, le premier carton, il est pour vous.
C'est les Bad Boys.
Le carton,
c'est son nom, Bad Boys.
Le carton est pour un lion. Mais c'est un lion de la Teranga, un lion du Sénégal. Édouard Mendy. En fait, je lui donne un carton vert par rapport à son niveau affiché hier face au Burkina Faso. Il a réussi 5 arrêts. Très décisif et il a été très tranchant. Et j'ai vu d'ailleurs des relances. Et moi, c'est une façon de dire quand même qu'on disait Édouard Mendy ne doit plus être titulaire, ne doit plus être là parce qu'il est dans un petit championnat de champignons en Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, on se rend compte que des joueurs qui viennent de ces championnats-là, ils continuent à briller, comme le dit donc un proverbe africain.
Allez, ce sera le dernier.
Le soleil a beau aller dans un endroit sali, il n'en reste que plus clair et ne sort jamais de là sali.
J'ai rien compris, mais c'est pas grave, il faut bien que ça arrive de temps en temps. Xavier, votre carton, rapidement.
On a parlé beaucoup de foot international, mais je voudrais revenir vite fait en France pour donner un carton vert à la famille Nicolin qui soutient le club de Montpellier depuis 50 ans. Il y a 50 ans, ils ont pris ce club du quartier de La Paillade, c'est un club de quartier au départ. Ils ont mis de l'argent dedans, ils l'ont fait monter, ils l'ont construit, ils ont construit un des meilleurs centres de formation de France. C'est un club où il n'y a pas beaucoup de soutien populaire, mais grâce à ce qu'ils apportent comme soutien financier, le club se maintient. Cette saison, c'est un peu plus compliqué, en tout cas en ce début de saison. Mais il y a une vraie âme dans ce club. Bravo à eux. Et en tout cas, ils se mettent à l'abri au moins des mauvaises surprises qu'ont des clubs comme Bordeaux et Lyon en allant chercher des investisseurs aux États-Unis ou ailleurs.
Est-ce que ça autorise Laurent Nicolin à dire tout et n'importe quoi? C'est une autre affaire. Yoro, Mangardon, Fred, tiens d'abord, dans mon ordre, à moi, j'avais dit Fred. Alors Frédéric, suite au
Fred,
votre carton.
Il y va, hein. Non mais, il y a un de nos téléspectateurs, auditeurs là, qui faisait plus qu'allusion, Melchi du Mornay, laïcienne. C'est le but de la semaine avec Lyon, son équipe, Ligue des Championnes face à l'AS Roma. Un lob de 40 mètres. Elle a marqué 2 des 3 buts des Lyonnaises. Elle avait été beaucoup blessée l'année dernière, mais c'est vraiment le top niveau, Melchi du Mornay, l'une des meilleures attaquantes du monde.
Yoro, comme promis.
Mon carton, il est vert pour Habib Diarra. 8 sélections, premier but hier. Et il nous offre la victoire ô combien importante pour rester premier de notre poule. Un petit coucou à son père avec qui j'ai grandi dans le même quartier. Il s'appelle Samba Diarra, ancien international sénégalais aussi.
Et ben voilà pour les cartons, les vôtres en tout cas. Celui de Radio Foot, bah, il est un petit peu dans la mouvance de ce qu'on dit depuis hier avec ces influenceurs qu'on retrouve de plus en plus. Hélas, dans les tribunes, salles de presse, parfois même sur les terrains, on l'a vu en Argentine, cette image du foot dont on a parlé avec Vinicius et Messi. Bah, Sankt Pauli, carton vert pour ce club de Bundesliga qui a annoncé hier qu'il quittait le réseau social X. Pourquoi? C'est un amplificateur de haine depuis le rachat de la plateforme par le milliardaire américain Elon Musk. Eh ben voilà, nous on espère à Radio Foot que ça va faire exemple tout simplement parce qu'il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout cela et ne pas dire et raconter n'importe quoi. Oui, monsieur Salerno, la pendule, elle est juste là et elle est à l'heure et vous aussi, vous êtes à l'heure, amis auditeurs, téléspectateurs. On vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous.